Gaston Bachelard, Radio. Aujourd'hui, la philosophie de l'alchimie.
En somme, l'alchimie du Moyen-Âge nous a légué un tableau auquel nous réagissons naïvement. Il suffit d'évoquer l'image d'un laboratoire d'alchimiste pour que, dans ce décor, nous nous mettions à rêver.
En me souvenant d'un lointain passé de travail, en réimaginant les images si nombreuses, mais si monotones du travailleur obstiné, lisant et méditant sous la lampe, on se prend à vivre, comme si l'on était le personnage unique d'un tableau. Une chambre, au mur flou, est comme resserrée sur son centre, concentrée autour du méditant assis, devant la table éclairée par la lampe. Durant une longue vie, le tableau a reçu 1000 variantes, mais il garde son unité, sa vie centrale. C'est maintenant une image constante où se fondent les souvenirs et les rêveries. L'être rêvant s'y concentre pour se souvenir de l'être qui travaillait. Est-ce réconfort, est-ce nostalgie que de se souvenir des petites chambres où l'on travaillait, où l'on avait l'énergie de travailler bien? Le véritable espace du travail solitaire, c'est dans une petite chambre, le cercle éclairé par la lampe. Jean de Beauchère savait cela, qui écrivait « Il n'y a qu'une chambre étroite qui permette le travail ». Et la lampe de travail met toute la chambre dans les dimensions de la table, comme la lampe de jadis, en mes souvenirs, concentre la demeure, refait les solitudes du courage, ma solitude de travailleur. Le travailleur sous la lampe est ainsi une gravure première, valable pour moi en 1000 souvenirs, valable pour tous, du moins je l'imagine. Le dessin, j'en suis sûr, n'a pas besoin de légende. On ne sait pas ce que pense le travailleur à la lampe, mais on sait qu'il pense, qu'il est seul à penser. La gravure première porte la marque d'une solitude, la marque caractéristique d'un type de solitude. Comme je travaillerais mieux, comme je travaillerais bien si je pouvais me retrouver en une ou l'autre de mes gravures premières. Gaston Bachelard, La flamme d'une chandelle.
Gaston Bachelard, on le sait, a d'abord écrit des livres d'histoire et de philosophie des sciences. Puis il a écrit des livres sur les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, sur la rêverie. Mais à quel moment et pourquoi le passage a-t-il eu lieu? On peut se demander si l'alchimie n'a pas joué précisément le rôle de pivot. Car les alchimistes ne sont-ils pas à la fois des savants et des rêveurs? Voici sur l'alchimie une causerie que Gaston Bachelard a enregistrée le 15 octobre 1954.
En suivant l'histoire des idées scientifiques, au cours du Moyen-Âge, j'avais essayé de mesurer l'influence des idées alchimiques sur les penseurs de cette époque. J'avais indiqué que l'alchimie formait un corps de doctrine particulièrement unitaire et stable, et que, de ce fait, s'expliquait la permanence de son action sur les esprits. L'alchimie m'apparaissait comme une véritable puissance de tradition. Souvent, l'alchimisme semble à la recherche d'un secret perdu. Il veut retrouver ce que les grands maîtres, jadis, dans le fond des âges, ont trouvé. Il médite sur des textes avant de travailler sur des matières. Les gravures sont nombreuses où l'on voit l'alchimiste absorbé par la lecture d'un parchemin devant ses fourneaux. Toujours, il lui faut découvrir le sens mystérieux d'une formule où le maître ancien a, en quelque manière, caché volontairement sa pensée. Pensée qui ne doit être livrée dans sa véritable lumière qu'aux initiés. Nombreux sont aussi les cas où les alchimistes se plaignent de l'obscurité des textes laissés par les anciens sages. En somme, l'alchimie a toujours eu une sorte de fonction de mystère. C'est pourquoi elle garde un attrait pour de nombreux esprits à travers les âges. On ne rend donc pas pleinement justice aux doctrines alchimiques si l'on se borne à les juger en quelque sorte matériellement en répertoriant les découvertes effectives qui relèvent de la chimie positive. En fait, l'alchimie du Moyen-Âge appartient à un type de méditation où se mêlent les songes et les pensées, où l'expérience est plutôt visée sur l'univers que sur les choses. Ce n'est pas pour rien que tant d'œuvres sont des conjonctions d'astrologie et d'alchimie. Finalement, c'est l'homme total, c'est la destinée même de l'homme qui était engagé dans la méditation alchimique. De là, si l'alchimie correspond, scientifiquement parlant, à une époque révolue, si les travaux du laboratoire alchimique ne sauraient avoir aucune action sur une culture scientifique actuelle, il reste que l'alchimie demeure une mine quasi inépuisable de documents psychologiques. Le beau livre que le psychologue Jung a écrit en 1944 sous le titre « Psychologie und Alchimie », livre dont on attend la traduction en français, prouve assez que pour un psychologue de notre temps, l'alchimie du Moyen-Âge est encore d'actualité.
Alors l'alchimie...
François Dagonier.
Elle l'a d'abord intéressé comme la longue histoire de l'errance. Seulement, il a compris, Bachelard, parce qu'il était très, très affûté, il a compris que les hommes n'ont pas pu penser pendant des siècles le vésanique, le fou, sans qu'il y ait des raisons. Puisque les raisons n'étaient pas objectives, ou si faiblement objectives, il fallait qu'il y ait des racines subjectives. Et alors, à ce moment-là, ce fut un véritable éblouissement. L'alchimie devenait le grand livre de la rêverie objective, justement, et matérielle. Alors, de négatif qu'elle avait été, elle se tournait en positif. Et elle lui permettait, les grands premiers livres sur l'imaginaire, c'est le feu, l'eau, l'air, la terre, elle lui a donné la clé pour interpréter. Les poètes sont des alchimistes et des alchimistes matériels, et les alchimistes, sans le savoir, créent la poésie. Par conséquent, l'alchimie est vraiment, c'est dominant, c'est nodal dans le bachelarisme, du fait, heuristiquement, épistémologiquement et historiquement.
Est-ce que vous ne trouvez pas que Bachelard s'est longuement arrêté à l'alchimie, qu'il y a eu une espèce de fascination particulière de Bachelard pour l'alchimie, parce que ça revient pas seulement à ce moment de nœud, mais dans ses autres livres?
Oui, d'ailleurs, on comprend cette espèce de fascination, parce que c'était la manière dont un rationaliste entrait dans la poésie. Et l'alchimie, c'était une poésie sincère et déguisée. Et puis, moi, je crois que les images, les vraies images, elles sont matérielles. Or, l'alchimie est une science pseudo-matérielle aussi. Autrement dit, on imagine que le poète, c'est quelqu'un uniquement qui trafique les mots et qui les assemble. Rien n'est plus anti-bachelardien, rien n'est plus faux. Le poète, c'est celui qui accomplit les choses, qui est dans le monde, dans les choses. Et l'alchimie avait cette propriété que c'était une poésie qui s'ignorait d'une part, mais c'était surtout une poésie qui concernait les choses. Et le fait qu'elle concerne les choses est très important pour sauver Bachelard des vues universitaires traditionnelles qui s'intéressaient trop aux mots et pas assez aux réalités. Parce que le forgeron, le potier, enfin les fabricateurs aussi sont des alchimistes, ils métamorphosent les choses. Parce que je crois qu'il ne faut pas distinguer alchimie, poésie et puis artisanat, le vrai artisan, le malaxeur, celui qui fait cuire, celui qui ventile, celui qui laboure, même le paysan, l'agriculteur, ce sont aussi des alchimistes. D'ailleurs, c'est pourquoi très souvent les modes de fabrication évoluent peu. Qu'est-ce qui caractérise même la ménagère et la cuisinière, la pâtissière? Eh bien, il y a une métamorphose des choses. Alors, l'alchimiste, c'était ça, il rêvait un peu les choses, mais il triturait, il effectuait. Bah, évidemment, ce n'était pas scientifique, mais c'était matériel. Alors, ce sont les grands poètes, ils ouvrent le monde au songe véritable, matérialiste. Je vais donner un exemple, d'ailleurs repris de Balzac, et je crois que c'est un exemple que Bachelard a donné quelque part, le fameux exemple de Balthazar Claës. Balthazar Claës, il avait, enfin en deux mots, il était persuadé que les choses allaient venir, parce qu'il avait planté, je crois, quelques graines d'une plante dont je perds le nom, enfin un cresson quelconque, du cresson, dans un baquet de sable complètement stérile. Il avait tout enfermé, il l'arrosait avec de l'eau qu'il avait distillée et il éclairait avec la lumière du soleil. Son cresson n'a pas cessé de pousser, et quand il l'a récolté, son cresson, il était parti de quelques graines. La récolte fut fabuleuse, et quand il a analysé les cendres du cresson, il a trouvé du zinc, du cuivre, du manganèse, etc., du plomb, pourquoi pas de l'or. Eh bien, il se disait, Balthazar Claës, d'où viennent tous ces métaux? Ma graine ne contenait rien de cela. Le sable c'était du sable, par conséquent, il n'y avait aucun substrat qui pouvait apporter à la plante. L'eau était distillée, la lumière, par conséquent, il y avait là, il était porté par la création même des matériaux, des minéraux. Alors, les alchimistes, c'est pas des rêveurs. Je répète, ils tablent sur des résultats qu'ils fantasment. Mais il y a quand même une petite part qui les porte. Et c'est pourquoi ce furent des grands imaginaires, parce qu'ils étaient attachés à l'œuvre. Et que de l'œuvre, ils obtenaient déjà les prémices. Ils ont été trompés par leur extrapolation, mais pas par le point de départ. Alors, c'est ça qui est intéressant dans l'alchimie, ce mélange de fabrication, opération, et puis d'espérance.
Devant sa flamme ne lit plus. Il pense à la vie, il pense à la mort. La flamme est précaire et vaillante. Cette lumière, un souffle l'anéantit, une étincelle la rallume. La flamme est naissance facile et mort facile. Vie et mort peuvent être ici bien juxtaposées. Vie et mort sont, dans leur image, des contraires bien faits. Les jeux de pensée des philosophes, menant leur dialectique de l'être et du néant sur un ton de simple logique, deviennent devant la lumière qui naît et qui meurt dramatiquement concrets. Mais quand on rêve, plus profondément, ce bel équilibre de pensée entre la vie et la mort se perd. Au cœur d'un rêveur de chandelle, quel retentissement il a ce mot, s'éteindre. Les mots sans doute désertent leur origine et reprennent une vie étrangère, une vie empruntée au hasard de simples comparaisons. Quel est le plus grand sujet du verbe s'éteindre, la vie ou la chandelle? Les verbes métaphorisants peuvent faire agir les sujets les plus hétéroclites. Le verbe s'éteindre peut faire mourir n'importe quoi, un bruit aussi bien qu'un cœur, un amour aussi bien qu'une colère. Mais qui veut le sens vrai, le sens premier, doit se souvenir de la mort d'une chandelle.
Et essayons de caractériser l'attrait qui nous attache encore aux doctrines alchimiques. En somme, l'alchimie du Moyen-Âge nous a légué un tableau auquel nous réagissons naïvement. Il suffit d'évoquer l'image d'un laboratoire d'alchimiste pour que, dans ce décor, nous nous mettions à rêver. Le Moyen-Âge est vivant dans cette cellule. Pour un historien qui aime la couleur locale, on peut dire que le laboratoire de l'alchimiste est un centre d'évocation du Moyen-Âge. On ne s'étonnera pas que les plus grands écrivains soient séduits par cette image. Balzac, dans beaucoup d'autres, va nous donner un témoignage de l'intérêt pour ce tableau littéraire qu'est le laboratoire de l'alchimiste. Dans son livre sur Catherine de Médicis, livre qui appartient à la série des études philosophiques, Balzac présente les deux alchimistes, Laurent Ruggieri et Côme Ruggieri. Laurent, dit-il, partage son attention entre un vieux manuscrit dont le parchemin doit avoir plusieurs siècles et deux fourneaux allumés cuisent des substances hérétiques. Comme tous les laboratoires d'alchimistes évoqués en littérature, le laboratoire des Ruggieri évoqué par Balzac est encombré. Balzac écrit encore « Le plancher du laboratoire ne se voyait ni en haut ni en bas, tant il s'y trouvait d'animaux suspendus, de squelettes, de plantes desséchées, de minéraux, d'ingrédients qui farcissaient les murs. Ici, des instruments de distillation, des bahuts remplis d'ustensiles de magie, d'astrologie. » Là, des thèmes de nativité, des fioles, des figures envoûtées et peut-être des poisons. Dans le récit de Balzac, Laurent est l'alchimiste, Côme est l'astrologue, mais ils travaillent ensemble, la même pensée les guide. L'alchimiste s'informe près de l'astrologue de l'état de la lune. Tout l'univers doit être propice à l'œuvre. Balzac n'a pas manqué d'indiquer cette synthèse des forces cosmiques et des forces matérielles. Fidèle à la tradition de l'image qui veut que le véritable alchimiste soit un vieillard, Balzac ne manque pas non plus de présenter Laurent Ruggieri comme un vieillard impressionnant. Je cite encore Balzac. Et en le citant, je rappelle que la scène est décrite par le roi de France, Charles IX, qui regarde les travailleurs du haut d'une fenêtre. J'ai fini par admirer ce regard si vif, si profond, si hardi, malgré les glaces de l'âge. Tout en cet homme accusait une espérance que rien ne décourage et que rien n'arrête. Son attitude, pleine de frémissement dans son immobilité, ses contours si déliés, si bien fouillés par une passion qui fait l'office d'un ciseau ou de sculpteur, tout, dit le roi, m'a fasciné pendant un moment. J'ai trouvé ce vieillard le roi que je ne le suis, car son regard embrassait le monde et le dominait. J'ai résolu de ne plus forger des épées, je veux année sur les abîmes, ainsi que fait ce vieillard, sa science m'a semblé comme une royauté sûre. À elle seule, cette comparaison des deux royautés, celle du roi de France et celle du roi de la matière, nous montre une imposante action de l'imagination alchimique. Le alchimiste rêve de matière, il rêve aussi de puissance. Qu'il cherche là la panacée, l'adjuvance ou le poison subtil, l'alchimiste incarne une évidente volonté de puissance. Et si nous étudions de plus près le récit que Balzac fait des intrigues de la cour de Charles IX, nous nous rendrions compte que l'écrivain lui apporte parfois une grande pénétration psychologique. Cela fait mieux ressortir le caractère tout conventionnel du tableau où il nous présente l'alchimie du Moyen-Âge. Enfin, un tel tableau ne peut guère se dater. C'est vraiment le tableau traditionnel, celui qui sert à tant d'écrivains à évoquer l'alchimie.
Les mythologues nous ont appris à lire les drames de la lumière dans les spectacles du ciel. Mais dans la cellule d'un rêveur, les objets familiers deviennent des mythes d'univers. La chandelle qui s'éteint est un soleil qui meurt. La chandelle meurt plus doucement même que l'astre du ciel. La mèche se courbe, la mèche se noircit. La flamme a pris dans l'ombre qui l'enserre son opium. Et la flamme meurt bien. Elle meurt en s'endormant. Tout rêveur de chandelle, tout rêveur de petite flamme sait cela. Tout est dramatique dans la vie des choses et dans la vie de l'univers. On rêve deux fois quand on rêve en compagnie de sa chandelle. La méditation devant une flamme devient, suivant l'expression de Paracelse, une exaltation des deux mondes.
Ainsi, on peut dire que le tableau du laboratoire d'alchimie, que le portrait du vieil homme sage, qu'est l'alchimie, sont des images qui demeurent dans l'imagination de tout homme cultivé. Ainsi, au moins par l'image traditionnelle, on peut parler d'une permanence de la rêverie alchimique. Mais, bien entendu, le pittoresque d'un tableau ne suffit pas pour expliquer la permanence profonde de cet attrait pour l'alchimie. Il faut qu'il y ait au fond même de la nature humaine des rêveries qui recommencent les rêveries alchimiques. En somme, le contact que nous avons avec la matière est plus naturel et plus profond que nous ne le pensons généralement. Dès que nous voyons une matière se transformer, une cire se dissoudre, une plaque d'étain se liquéfier par la chaleur, nous nous mettons à rêver. Et si on nous laisse à la solitude de nos rêveries devant une matière en fusion, nous ne pouvons des songes d'alchimie. La vie moderne, la pensée cultivée, nous éloigne de ces rêveries. Mais si nous ouvrons un livre d'alchimie, nous ne le lisons pas vraiment scientifiquement. Nous ne le lisons pas en nous plaçant dans une histoire. Pour peu que nous soyons au clair avec nous-mêmes, nous le lisons comme un roman de la matière. Nous suivons le vieil auteur dans sa valorisation des substances élues. Nous croyons à la vertu de la rosée et de mai. Nous admirons la patience naïve qui fait recommencer sans fin les mêmes opérations pour inscrire en quelque sorte une réalité temporelle dans une matière. Nous sommes séduits par l'immensité d'une synthèse et qui unit les influences astrales au travail intime des substances matérielles. L'alchimie est en quelque manière une rêverie illimitée. Elle est donc un thème que l'imagination peut sans fin faire revivre.
Est-ce que dans cet intérêt très vaste qu'a eu Bachelard, il a touché à tout, au fond, à toutes les régions du savoir, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une espèce de tentation d'universalité qui le rapproche un tout petit peu des alchimistes?
D'abord, le propre du philosophe, c'est tout de même de totaliser. Alors à cet égard, il est bien normal qu'il ait un champ suffisamment ample.
Il dit, il y a une belle phrase dans la philosophie du monde, il dit, on n'est pas philosophe si on n'a pas déterminer les conditions de la synthèse du savoir, je crois.
Assurément. Oui. Mais de là à tout prendre en compte et à tout absorber, je n'irai pas jusque-là. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le Bachelard, c'est deux points. Premièrement, son épistémologie, il l'a voulu régionaliser et fragmentée pour éviter des synthèses paresseuses rapides. Deuxièmement, j'ai beaucoup aimé la typologie des images. Quand on est un poète de l'eau, on n'est pas facilement un poète, par exemple, de la terre. Alors, la dédifférenciation, la discrimination des types psychiques me paraît capitale. Il a bien planté ses poètes dans des régions, avec une espèce d'instinctivité pour une impulsivité créatrice. Mais, je répète, il les a bien typés les uns les autres, à tel point qu'on ne confondra pas jamais Baudelaire, Edgar Poe, par exemple, le grand poète de l'eau, avec tel Valéry qui est probablement dans la terre ou le feu, ou Novalis, etc. Moi, j'aime beaucoup justement ces différenciations et ces discriminations.
Le rêveur est à sa table. Il est en sa mansarde. Il allume sa lampe. Il allume une chandelle. Il allume sa bougie. Alors je me souviens, alors je me retrouve. Je suis le veilleur qu'il est. J'étudie comme il étudie. Le monde est pour moi comme pour lui, le livre difficile éclairé par la flamme d'une chandelle. Car la chandelle, compagne de solitude, est surtout compagne du travail solitaire. La chandelle n'éclaire pas une cellule vide, elle éclaire un livre. Seule la nuit, avec un livre éclairé par une chandelle, livre et chandelle, double îlot de lumière contre les doubles ténèbres de l'esprit et de la nuit. J'étudie. Je ne suis que le sujet du verbe étudier. Penser, je n'ose. Avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier. Mais la chandelle s'éteindra avant que le livre difficile soit compris. Il faut ne rien perdre du temps de lumière de la chandelle, des grandes heures de la vie studieuse. Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle au lieu d'étudier, je rêve. Alors, les heures ondulent dans la solitaire veillée. Les heures ondulent entre la responsabilité d'un savoir et la liberté des rêveries, cette trop facile liberté d'un homme solitaire.
Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Bachelard s'est un peu mis en scène lui-même comme un alchimiste? Je pense à la flamme d'une chandelle, où il est là, près de la flamme, seul, la nuit.
Écoutez, je crois que Bachelard, et ce qui est tout à fait normal, n'a pas cessé d'évoluer. Il a d'abord été un épistémologue de la transformation, qui transforme l'épistémologie. Ensuite, il est, comme nous l'avons dit, il a accueilli le monde du fantastique, etc. Et puis il y a une troisième évolution, la flamme d'une chandelle, entre autres, marque un tournant, il devient ensuite lui-même un poète. À la fin, il est devenu l'alchimiste du verbe, et c'est lui qui nous raconte, et on retentit à ce qu'il écrit sur lui, de lui-même. Par conséquent, vous le voyez, c'est pas une double évolution qu'il faut voir dans le charlisme, mais une triple. Il est d'abord contre les alchimistes pour la science, ensuite les alchimistes, il les récupère et les intègre pour la littérature, et enfin il devient un alchimiste poète, un jeune poète plutôt qu'un vieux philosophe.
L'image d'un veilleur à la chandelle me suffit pour que je commence, moi, ce mouvement ondulant des pensées et des rêveries. Oui, je serais troublé si le rêveur qui est au centre de l'image me disait les causes de sa solitude, quelque lointaine histoire des trahisons de la vie. Ah, mon propre passé suffit à m'encombrer. Je n'ai pas besoin du passé des autres, mais j'ai besoin des images des autres pour recolorer les miennes. J'ai besoin des rêveries des autres pour me souvenir de mon travail sous les petites lumières, pour me souvenir que, moi aussi, j'ai été un rêveur de chandelles.
C'était La philosophie de l'alchimie. Document INA. Gaston Bachelard, Causerie. 1954. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine, avec la participation de François Dagonier. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Collaboration technique, Daniel Bizien, Yvette Hubeau. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique, deuxième partie. Archives, 1947-1962, cette semaine. Les grands savants du 19e siècle, suite de figures. L'essor scientifique sous le Second Empire, l'exposition universelle, les épreuves de 1870. Gaston Bachelard, 1949.
Dans les nombreuses causeries que nous avons déjà faites pour suivre le développement parallèle de l'histoire de la civilisation française et de l'histoire de la pensée scientifique, nous avons plusieurs fois insisté sur la remarquable continuité de la science mathématique en France. Il semble que dans notre pays, chaque génération apporte son heureux tribut à la culture mathématique. Chaque génération a ses génies mathématiques. Nous trouvons confirmation de cette continuité du génie dans le troisième quart du 19e siècle. Les mathématiques sous le Second Empire sont en France en plein développement. Cauchy vit encore, tout à ses convictions légitimistes. Il refuse le serment au gouvernement impérial comme il l'a refusé au gouvernement de Louis-Philippe. Les grands mathématiciens Lamé, Chasles poursuivent leurs travaux. Liouville accumule les mémoires. De 1836 à 1875, Liouville en publie un si grand nombre que leur seul titre occupe 10 colonnes dans la table des matières. Mais une sorte de relève s'opère. Voici les jeunes, deux grands mathématiciens, Joseph Bertrand et Charles Lhermitte, commencent leur carrière féconde. Ils enseigneront pendant un demi-siècle. Mais si nous devions fixer la physionomie de la science française durant le Second Empire, en ne retenant que les trois génies les plus marquants, nous proposerions les noms de Claude Bernard, de Louis Pasteur et de Marcelin Berthelot. Rappelons brièvement leurs travaux. Claude Bernard est né en 1813. À 20 ans, il rêve de succès littéraire. Il écrit une tragédie qu'on ne joue pas. Il voit alors sa véritable destinée. Il deviendra médecin. Ses débuts restent encore difficiles. Il est reçu à l'internat, mais avec le mauvais numéro 23 sur 29, et il est refusé à l'agrégation de médecine. Mais il suit les cours de Magendy au Collège de France. Magendy, frappé de son habileté d'expérimentateur, le prend comme assistant, puis comme suppléant. Claude Bernard succède à Magendy en 1856. La carrière scientifique de Claude Bernard commence par un travail magistral sur le pancréas en 1849. Mais c'est la découverte de la fonction glycogénique du foie qui fonde la gloire impérissable de Claude Bernard. Rendons-nous compte qu'une telle découverte est un tournant de la biologie. Magendy avait bien reconnu la présence du sucre dans le sang, mais il pensait tout naturellement que ce sucre provenait des aliments absorbés. Ce fut donc une révolution que de prouver que ce sucre avait été constitué par une activité de l'organisme, par une fonction spéciale du foie. Cette importante découverte fut réalisée en 1851. Dans les premiers temps de l'Empire, l'activité scientifique de Claude Bernard est énorme. Il est vraiment le maître de la technique expérimentale en biologie. En 1865, au cours d'un repos forcé dans son pays natal, il écrit la fameuse introduction à l'étude de la médecine expérimentale, où il expose nettement le déterminisme des phénomènes biologiques. À la fin de l'Empire, il est nommé sénateur par décret impérial. Claude Bernard est mort en 1878. La vie de Pasteur porte le même témoignage d'un labeur acharné. Nous avons dit l'importance du premier travail de Pasteur sur le dimorphisme de certains cristaux. Ces travaux furent publiés en 1848, alors que Pasteur avait seulement 26 ans. En 1854, Pasteur est doyen à la faculté des sciences de Lille. Le séjour dans la grande cité industrielle du Nord apporte au jeune doyen un lot de problèmes précis. En particulier, il écoute les doléances des brasseurs. Il étudie les maladies de la bière, les accidents dans la fermentation du jus de betterave. Ce maître du microscope découvre les ferments. Il distingue les variétés de ces êtres que nous appelons aujourd'hui les microbes. En 1857, Pasteur prend la direction des études scientifiques à l'école normale. Un long débat, dont Pasteur sort vainqueur, commence sur le problème de la génération spontanée. Pasteur réfute expérimentalement les expériences erronées de Pouillet qui tendaient à prouver l'existence de générations sans germes. Mais la vie de Pasteur atteindra sa plus grande fécondité dans ses travaux sur les maladies contagieuses. Nous aurons à y revenir quand nous suivrons les progrès de la science sous la Troisième République. On peut parler d'une ère pasteurienne. Cette ère commence vraiment en 1854, au moment des premiers travaux de Pasteur, sur les fermentations. La vie de travail de Berthelot n'est pas moins exemplaire. Elle aussi fixe une ère, l'ère des grandes synthèses des matières organiques. Sans doute, avant Berthelot, on avait réalisé des combinaisons chimiques qui donnaient des produits trouvés dans les organismes animaux. Ainsi, Wöhler, dès 1828, avait réalisé la synthèse artificielle de l'urée. Mais Marcellin Berthelot fut le maître incontesté des méthodes de synthèse organique. En 1854, en partant de l'oxyde de carbone, Berthelot fait la synthèse de l'alcool méthylique, ce qu'on appelle l'esprit de bois, et de ses dérivés. Bientôt, il réalise la synthèse de l'acide oxalique, mais la découverte la plus retentissante est la synthèse de l'acétylène par l'union directe du carbone et de l'hydrogène. Le chimiste constructeur part alors de l'acétylène pour produire synthétiquement l'éthylène, l'alcool éthylique, qui n'est autre que l'alcool de vin. Ainsi, l'eau de vie provenant de l'action des ferments vivants sur le jus de raisin, n'appartient plus seulement au principe de la vie. Elle est créée de toutes pièces par le chimiste à partir de corps inertes. Ainsi, par ces trois grands génies, la philosophie de la vie recevait des lumières convergentes. Cette convergence est d'autant plus frappante que ces trois grands esprits étaient plus différents. D'elle-même, la science trouve son unité. Jamais peut-être cette unité autonome n'a été plus visible que dans cette réunion des génies que nous venons de relater.
Gaston Bachelard, 1949.
Les découvertes scientifiques dans les temps modernes sont des découvertes qui provoquent des découvertes. En particulier, les progrès des techniques inspirées par la science prennent une forme de plus en plus cohérente. Il faudrait de longues conférences pour déterminer l'importance grandissante de cette coopération des techniques dans une courte période de l'histoire moderne. L'époque du Second Empire, en nous reportant à un siècle en arrière, est très intéressante à étudier comme un temps où timidité et audace forment en quelque manière un complexe que la civilisation technique et scientifique contemporaine a, de toute évidence, surmonté. On peut à cet égard rappeler une fois de plus la prophétie d'un tiers disant que les chemins de fer ne seraient jamais pratiques et lui opposer l'enthousiasme d'un Lamartine qui, à la commission parlementaire des chemins de fer au Parlement de Louis-Philippe, multipliait les interventions, discutait en géographe et en économiste du problème des meilleurs tracés. Un auteur écrivant en 1867 soulignait la responsabilité d'un tel choix. Le tunnel et le viaduc, disait-il, sont les moyens héroïques de la technique ferroviaire. Mais des exemples plus modestes diront peut-être mieux l'hésitation devant la technique. Ainsi, au début du Second Empire, Louis Figuier, pourtant si ouvert aux nouveautés, jugeait difficilement réalisable l'installation des ascenseurs dans les maisons d'habitation. Ces ascenseurs, il les appelait des hissoirs, lui semblaient superflus. Il n'en admira pas moins à l'exposition de 1867 l'ascenseur de M. Hédoux, grand joujou mécanique, disait-il, qui, du matin au soir, élevait les visiteurs sur le toit du palais de l'exposition. Il ajoute, « On s'amusait beaucoup de cette excursion aérienne, et l'on riait, d'autant plus que l'on comprenait moins. » Et il écrit une page pour expliquer l'ascenseur hydraulique. Voici un autre exemple de la timidité devant la technique. Quand on commença, sous le Second Empire, les essais un peu généraux d'éclairage électrique, on rencontra les plus vives critiques. « Ce projet, dit un auteur de l'époque, était insensé, mais il plaisait à certains spéculateurs du règne d'Haussmann. Bien heureusement, les savants parvinrent à sauver les becs de gaz qui font l'ornement de Paris nocturne. » En fait, les forces utilisées par la technique il y a un siècle dérivaient presque toutes de la machine à vapeur. Aussi bien l'industrie que le trafic ferroviaire avaient déterminé une grande émulation pour les progrès des machines thermiques. En revanche, les moteurs électriques, qui avaient fait leur apparition à l'exposition universelle de 1855, ne paraissaient pas en progrès à l'exposition de 1867. Mais arrêtons-nous davantage à cette exposition de 1867 qui, suivant les pronostics d'un observateur de l'époque, devait être prise au rang des événements les plus importants du 19e siècle. On peut y voir le résumé des techniques du Second Empire. Le palais de l'exposition, à lui seul, s'offrit comme le succès définitif des constructions en fer. Il paraissait un témoignage de la rapidité et de la solidité de la construction en fer. Les journaux de l'époque sont remplis de renseignements admiratifs sur l'audace des charpentes métalliques, sur la steltesse des piliers, sur la sûreté des assises. On peut dire que la technique prend conscience d'un âge nouveau, l'âge du fer construit, l'âge de la métallurgie constructrice. Dans cette galerie des machines, on admirait les conquêtes techniques les plus nouvelles. C'était, dit un visiteur, l'atelier du monde entier, l'industrie universelle, avec ses surprises, ses enchantements et ses changements à vue. Les visiteurs voyaient fonctionner 100 appareils divers, machines à extraire le minerai, à forer, à raboter, à scier, à imprimer, à filer, à tisser, à tricoter, à coudre, à faire des chapeaux, la chaussure, le chocolat, les cartes de visite, les cigarettes. Il assistait à toutes les transformations de la matière sous la haute direction de l'intelligence humaine. Parmi les stands les plus visités, il faut noter ceux de la galvanoplastie et de la photographie. La galvanoplastie comptait parmi les applications les plus importantes de l'électricité dans cette époque. En ce qui concerne la photographie, on venait de doubler son intérêt par la photolithographie et la gravure héliographique, soit dit pour employer les termes de l'époque. La production commode par l'imprimerie des photographies donnait la possibilité de l'illustration exacte. S'il nous fallait désigner les travaux qui semblaient le signe des temps nouveaux, il y a un siècle, nous nous arrêterions aux deux grandes entreprises, le percement du Mont-Cenis et le percement de l'isthme de Suez. Les journaux et les revues de l'époque ont suivi avec passion les deux grandes rames de la technique cosmique. Le tunnel sous les Alpes ne fut achevé qu'en septembre 1871. Mais le canal de Suez fut achevé en 1869. La part du génie français avait été prépondérante, et le nom de Ferdinand de Lesseps restera attaché à jamais à cette grandeur humaine. Dans les souvenirs que l'impératrice Eugénie a confiés à Maurice Paléologue, elle relate les fêtes extraordinaires de l'inauguration le 18 novembre 1869. Ce fut, dit-elle, mon dernier souvenir d'éblouissement. Ce jour-là, elle crut, répète-t-elle, à la pérennité de la dynastie impériale. Mais les ruines politiques mettent peut-être mieux en évidence la puissance de l'organisation technique, la continuité des progrès de la technique est une des grandes leçons de l'histoire des sciences modernes.
Gaston Bachelard, 1949.
La défaite militaire de 1870 conduit souvent les historiens à mettre en cause la préparation des moyens scientifiques de notre pays dans les derniers temps du Second Empire. On répète un peu trop vite que le soldat français a été battu par le maître d'école allemand. En fait, si l'on suit objectivement l'histoire de la science, il paraît tout à fait injuste de sous-estimer les efforts des savants et des techniciens pour mettre notre pays en possession des moyens techniques les plus nouveaux. Par exemple, la chimie française n'avait rien négligé pour perfectionner le service des poudres. Nous étions tout aussi instruits que les Allemands sur la composition et la puissance des nouveaux explosifs. La nitroglycérine, découverte en 1847 par Sobrero, avait été rendue maniable, comme on le sait, par Nobel en 1864. la dynamite de Nobel n'était autre chose que la nitroglycérine, substance liquide, mélangée à une matière poreuse. Le bulletin de la Société d'encouragement de décembre 1869 renferme la traduction d'une instruction publiée par l'administration des mines allemandes de Dortmund pour l'utilisation de l'huile explosive de Nobel, comme on disait alors. Il n'y avait donc rien là, il faut le souligner, qui pût donner l'impression d'une science secrète. D'ailleurs, pendant le siège même de Paris, à propos duquel nous ferons une causerie spéciale pour indiquer l'ingéniosité des savants français, le chimiste Champion sut fabriquer de la dynamique en prenant des scories siliceuses provenant des fours de verrerie. Champion obviait ainsi au manque de silice naturel. Voici encore une nouvelle preuve du caractère quasi-public de la préparation technique d'alors. Nous avons dit l'importance de l'exposition universelle de 1867 à Paris. Il est assez frappant de constater qu'un des stands principaux de cette exposition était consacré à l'artillerie européenne. Les grandes puissances du continent venaient y exposer leurs meilleures armes. Louis Figuier relate sa visite aux canons prussiens et aux canons anglais. « Je m'arrêtai, dit-il, devant les produits de la fabrique d'acier de M. Krupp. » Là, en effet, s'étalait toute une collection de canons d'acier, de projectiles creux ou pleins, et de plaques de blindage de navires de diverses épaisseurs, percées à jour par les projectiles sortis de ces canons de gros calibre. Sont exposés aussi bien les canons de campagne de la maison Krupp que la pièce de 12 800 kg qui lance un projectile de 125 kg. On s'arrêtait enfin, continue Louis Figuier, pour contempler le géant ou le mammouth des canons. C'est ainsi qu'il faut appeler l'effroyable bouche à feu qui se dressait dans la galerie des machines prussiennes et qui était peut-être la plus grande curiosité de l'exposition. C'est le canon le plus lourd qui ait jamais été fondu. Il est en acier forgé et pèse plus de 5000 kg, 50 tonnes. Le projectile qu'il lance pèse 500 kg. Il lance ce projectile à 14 kilomètres. En d'autres termes, dit l'auteur, le boulet pourrait presque franchir la distance de Versailles à Paris. Rappelons que ce texte a été publié 3 ans avant le siège de Paris. La France, de son côté, exposait 7 à 8 énormes canons de marine destinés soit à l'armement des navires, soit à la défense des ports. La marine impériale avait un stand important. Elle retenait l'attention par le nombre et la variété des modèles. La marine entrait vraiment dans le règne du navire cuirassé. On s'étonnait devant les plaques de blindage du Solferino qui mesuraient 22 cm d'épaisseur. Non seulement par cette exposition, la notion de secret des armements devenait problématique, mais les discussions abondaient tout au long des revues à la fin de l'Empire. La question des canons à âme lisse et des canons rayés était abondamment traitée. De Freycinet, le savant français dont on connaît la compétence, dit nettement que le fusil chasse-pot est nettement supérieur au fusil à aiguille prussien. Ainsi, la technique scientifique de l'armement ne donnait aucune infériorité aux armes françaises. Ce qui a manqué, c'est le nombre des armes et l'organisation militaire. Par exemple, nous ne disposions que de 2 pièces de canon pour 1000 hommes, alors que les Allemands en avaient 3 ou 4 pour 1000 hommes. On pourrait formuler un jugement similaire sur la mauvaise utilisation d'un bon matériel à l'égard de beaucoup de problèmes de détail. La télégraphie militaire date de la guerre d'Italie. Un appareillage de campagne très bien conçu était affecté à diverses unités, mais le personnel militaire manquait d'habileté. Il fallut que l'administration des télégraphes fût mise à la tête des services militaires. Un auteur de l'époque rend hommage aux employés de l'administration qui firent, dit-il, la campagne tout entière en militaire improvisé. Nous aurons d'autres exemples d'organisation improvisée qu'on nous relaterons dans une prochaine conférence, les efforts des savants et des techniciens français pour participer à la défense de Paris assiégé.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard, bis, archive. Cette semaine, les grands savants du 19e siècle, suite de figures. L'essor scientifique sous le Second Empire, l'exposition universelle, les épreuves de 1870. Gaston Bachelard, 1949. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Philippe Palares, Hervé Evano, Marc Hubert Florian.